Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Le potager, il ne se cantonne pas uniquement à la belle saison, il dure tout l'hiver. Ça nous permet d'avoir fruits et légumes toute l'année et surtout fruits et légumes de saison.
Une carotte, un panais, un navet, un oignon. J'aime pas cuire les purées à l'eau.
Patate.
J'aime bien démarrer les purées en faisant un petit côté rôti. Donc on va prendre un peu d'huile d'olive. Ça va nous permettre de concentrer un petit peu les sucres, les saveurs, de ne pas avoir de dilution dans l'eau. Et donc, on va avoir comme ça beaucoup plus de saveur dans la purée.
Patide ou potiron.
Il faut goûter, il faut sentir les choses, il faut doser le feu, il faut, voilà, c'est un petit peu du feeling.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster en ce dimanche matin à l'heure d'allumer le feu sous les cocottes. Je vous propose un ping-pong gourmand et jubilatoire autour des légumes d'hiver avec nos deux invités. Un invité pour les cultiver, l'autre pour les cuisiner, céleri rave, endive, panais, chou-fleur. On est dans les derniers jours de la saison. Alors celui qui les cultive et qui les raconte si bien ces légumes d'hiver, c'est Xavier Mathias. Bonjour.
Bonjour.
Ça va Xavier?
Bah ouais, très bien.
On est très heureux de vous retrouver.
Bah oui, c'est l'hiver, c'est la saison des légumes en fait. Hein.
Voilà, et oui, pour vous c'est la saison des légumes et vous allez nous expliquer pourquoi. Vous l'avez compris, Xavier Mathias dans la bande dont on va déguster. C'est notre ami du potager, notre expert en permaculture, auteur de nombreux ouvrages de référence. Il est arrivé comme d'habitude, et ben, les mains pleines. Ouh là là, non, me dites pas que c'est un céleri.
Alors ça, c'est,
un
ça,
céleri
c'est...
qui aurait la forme un peu d'une carotte. Alors, ou d'un panais.
C'est un panais, mais c'est non, le mais... vrai panais de jardin, quoi. C'est pas la forme qu'on est assis.
C'est un panais,
c'est
mais oui.
Le panais d'un kilo.
Je connais ça pour un céleri rare. C'est un panais extraterrestre.
En fait, c'est tout simplement que maintenant, on a des formes commerciales qui sont très fines, etc., très appétissantes. À l'origine, le panais, on sème au mois de mai et on laisse venir. Il n'a pas besoin d'arrosage, etc. C'est vraiment un légume roboratif.
Ouais.
C'est le colosse du potager, lui. Normalement, ça donne ça un panais. Et quand c'est gros, c'est pas fibreux pour autant, c'est pas moins bon pour autant. Hein. C'est juste que, voilà, on en a pour une bonne semaine. Quoi.
Il
fait 2 kilos.
Incroyable, ouais. On va en parler avec Xavier tout à l'heure. Et celle qui cuisine pour nous aujourd'hui les légumes d'hiver, c'est Stéphanie Lequellec. Bonjour.
Bonjour à tous.
Ça va Stéphanie?
Impeccable.
Vous êtes déjà venue plusieurs fois au micro dont on va déguster. Vous avez ouvert il y a peu votre restaurant gastronomique. C'est peu dire s'il fait du bruit dans le Landerneau gastronomique. Une expérience vraiment incroyable. Alors hautement gastronomique, il faut bien le dire, mais ambitieuse techniquement en termes de goût et d'inspiration. C'est l'un des coups de cœur 2019. Ça s'appelle La Seine. C'est situé avenue de Matignon à Paris. C'est enfin votre propre restaurant puisque vous avez juste avant décroché, d'ailleurs c'était en janvier dernier, 2 étoiles au guide Michelin puisque vous étiez la chef du Prince de Galles. Mmh. Le restaurant s'appelait déjà La Seine. Mmh. Et vous publiez un livre, Stéphanie, à la couverture rose poudrée, sobrement intitulé Cuisine. J'aime bien ce nom, il est sobre et en plus il n'est pas question de cuisine étoilée mais vraiment de cuisine du quotidien.
Cuisine du cœur.
Cuisine du cœur aussi, absolument. La cuisine que vous faites à la maison.
Pour les gens que j'aime, pour les amis, pour la famille.
Voilà, donc on va voir que ce sont de nombreux tours de main, assez simples à appliquer à la maison et je pense que nos auditeurs vont les apprécier. Si d'ailleurs, chers auditeurs, vous avez des questions à poser sur les légumes d'hiver à nos spécialistes, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com. Où vous pouvez réagir depuis le bouton réagir sur l'appli mobile de France Inter. Dans la bande dont on va déguster, je demande aujourd'hui Elvira Masson et Arnaud Daguin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Comment ils vont?
Plaisir à tous.
Bien, très bien.
Ils vont.
Elvira.
Moi, je vous parle d'un gnocchi alternatif qui est confectionné à partir d'un légume que Stéphanie aime beaucoup.
Incroyable. Alors ça, cette histoire, j'attends impatiemment que vous nous la racontiez à nouveau. Arnaud.
Vous verrez.
On va faire un petit coup de larmes, mais pas triste pour autant. Allez.
À tout à l'heure, Arnaud, vous êtes avec nous pendant toute l'émission. L'émission du jour est mitonnée en direct derrière la vitre de la régie par Laurane Thomas avec à la technique Florent Layani, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre page internet. Page internet sur laquelle vous pouvez retrouver le podcast de l'émission, le podcast de toutes les chroniques, nos infos pratiques et les recettes de nos invités. Juste avant nos légumes d'hiver, une petite question qui pourrait vous faire gagner un cadeau de Noël.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Comme Noël approche à grands pas, on vous fait gagner ce matin en direct la boîte à quiz dont va déguster. Cette boîte à quiz éditée par Marabout et les éditions de Radio France. Ce sont 1000 questions pour tester sa culture culinaire en famille, entre amis, avec des QCM, des vrais faux, des questions pièges autour, des desserts, des vins et spiritueux de la cuisine du monde. Rappelons que nous avons quand même à nos côtés la grande gagnante du grand quiz que nous avons organisé la semaine dernière avec d'autres chroniqueurs de la bande dont on va déguster et des auditeurs, c'est Elvira Masson.
Mais je n'étais pas
seule. Vous êtes remis de votre victoire ou pas?
Mais je la savoure encore.
Alors accompagné, il faut bien le dire, il vous a aussi beaucoup aidé, mais vous avez été quand même assez percutante sur bon nombre de questions. C'est Xavier, le gourmet qui anime le blog Mon Paname. Voilà, avec Xavier,
on s'est régalé, ouais. C'est amusant.
Vous avez formé le duo gagnant. Ce matin, on met en jeu 3 boîtes dédicacées par la bande dont on va déguster, à condition évidemment de répondre à une question que je vais vous poser. Xavier Mathias à la bouche cousue, c'est lui qui donnera la réponse tout à l'heure, mais ça concerne bien entendu le sujet du jour. Alors pour gagner cette boîte, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse suivante onvadéguster@radiofrance.com. Les 3 premiers auditeurs à nous adresser la bonne réponse par mail, accompagnés de leur adresse postale. S'il n'y a pas d'adresse postale, malheureusement on ne valide pas le mail parce qu'on est obligé de l'avoir pour vous envoyer la boîte. Eh bien les 3 premiers remporteront cette boîte à quiz. Attention, j'ai pioché une question dans la rubrique « Au marché ». Et elle a un rapport avec un des légumes qui nous intéresse aujourd'hui. Vous êtes prêts? À quel genre botanique appartient l'endive? Et c'est de ce genre botanique que l'endive tire son autre nom de chicon, employé dans le nord de la France et en Belgique. Je répète, à quel genre botanique appartient l'endive? Et c'est de ce genre botanique que l'endive tire son autre nom chicon, employé dans le nord de la France et en Belgique. Voilà. La réponse juste après une petite pause musicale, puisqu'on parle endive justement juste après. L'art de la défaite, c'est le 12e album de Batlick. Et cet album est inspiré de Cioran, le philosophe et écrivain roumain. Batlick a été très marqué par cette phrase de Cioran. La musique est le refuge des âmes ulcérées par le bonheur. Soyez heureux sur France Inter.
La côte en haut de la ville est avare en ombre l'été. Cela rend indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il y marche comme l'on vole, l'air de ne pas y toucher. Le moindre bruissement la folle, le fait se redécourager, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour à la tire, c'est ce que se sent lui dit, que tout son latin se divise. Aux volets bleus et entrouverts, aux vélos verts, à ceux à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour, sur soi. De la ville est avare en ombre l'été. Cela rend indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il en redescend comme on sort d'une nuit blanche et agitée. Le moindre bruissement l'endort, le fait se remettre à rêver, revenir sur ses pas, et puis recommencer à regagner l'en bas. C'est qu'à tout l'autour, consumé par les sens et l'été, et son latin. Résumé à répéter, tout bas, voudrais-tu danser? Voudrais-tu danser? Voudrais-tu redanser avec moi ou pas? Hein? C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour,
être là dans ce demi-tour sur soi.
L'endive est fade jusqu'à l'exubérance. Sa forme, qu'on peut qualifier de n'importe quoi, genre machin, est fade. Sa couleur, tirant sur rien avec des reflets indescriptibles à force d'inexistence, est fade. Son odeur rappelant à l'amnésique qu'il a tout oublié, est fade. Son goût, puisque, dit-on, de nombreux pénitents mystiques préfèrent en manger plutôt que de crapahuter sur les genoux jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, atteint dans la fadeur gastronomique des sommets que le rock mondial frôle à peine dans la pauvreté créatrice. L'endive, en tant que vivante apologie herbacée de la fadeur, est l'ennemi de l'homme qu'elle maintient au rang de quelconque, avec des frénésies mitigées, des rêves éteints sitôt rêvés, et même des pinces à vélo. Qui a écrit ça? C'est un texte que nous a dégoté Xavier Mathias, signé Pierre Desproges, avec la méchanceté et la causticité qu'on lui connaît, publié dans son dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des biens nantis. Ça nous a tous fait bien rigoler, on entendait les rires d'Arnaud Daguin, et pour autant il est vachard quand même avec ce légume qu'on peut qualifier d'amer quand il est cultivé dans de bonnes conditions. Je pense qu'il faisait référence justement à ces variétés modernes, hybrides, qui ont perdu justement leur amertume, qui ont perdu leur croquant, leur côté charnu, qui sont pleines de flotte.
Bah, en fait c'est ça, c'est la première saveur qu'on a perdue, au profit du sucre, hein, souvent, c'est l'amer. On veut plus manger amer du tout, quoi. C'est vraiment une société qui s'infantilise, qui veut du sucre. Et donc, bah, les endives, on a tout fait pour leur faire partir leur amertume. Et là, je suis désolé de jeter une pierre dans leur jardin, mais c'est un peu l'INRA, hein, quand même, avec les... on est dans les années 70, 74, qui obtient la variété Zoom F1.
Joli nom, comme voilà, d'habitude.
Ouais. Et donc, effectivement, on a beaucoup plus de régularité dans la production, des choses bien plus fermé, bien plus serré, mais néanmoins ça se fait au détriment du goût, quoi. Franchement, moi je vais pas rejoindre des proches, n'exagérons rien, mais quand même, il y a plus grand chose dans les endives, et rares sont les producteurs qui font de l'endive de pleine terre. En fait, la Zoom, elle nous amène ça, les forçages sans terre, des forçages qu'on fait en endiverie, et donc moi j'en ai fait là où j'ai bossé avant, et voilà, vous avez trois semaines à 19 degrés, blam, et on a l'endive.
C'est sans nature.
Donc effectivement, on la met dans du terreau, des caisses, de l'eau, et puis voilà. C'est
pas Alors, vrai. Resituons notamment, et on va en arriver évidemment aux gagnants de cette boîte à quiz, on va déguster, puisque j'ai les trois noms sous les yeux, je peux vous dire qu'ils ont été tout à fait réactifs sur leur clavier, boum boum, on s'est pris un mail au bout de 10 secondes. Botaniquement, l'endive justement.
Alors il y a un piège en plus parce que donc c'est, on va dire que ce sont des chicorées.
Ah
voilà, la bonne réponse francisée.
Chicorée éventuellement en latin.
Alors en latin c'est sicorium et là il y a un piège parce que sicorium endivia ne désigne pas les endives. Nous elles appartiennent au sicorium intibus. C'est un petit piège supplémentaire. Ça les botanistes sont très très bons là-dedans.
Et visiblement ce qui s'est passé c'est que lorsque ce légume est arrivé à la fin du 19e siècle dans les Halles de Paris, on a voulu lui donner un nom français parce que nos cousins belges l'appelaient chicon.
Ouais, Witloof aussi, feuille blanche.
C'est ça.
Ouais.
C'est bien un légume d'origine belge, contrairement par exemple au chou de Bruxelles auquel on attribue des racines belges. La l'endive est vraiment belge.
Oui. On dit que c'est par accident ou par hasard qu'on a obtenu les premières endives, que c'était un chef de culture belge, et que c'était en forçant de la barbe de capucin, qui est un petit peu... parce qu'on faisait des chicorées forcées, hein, néanmoins, et il s'est aperçu que quand on remettait de la terre, quand on enterrait le collet, ça se développait quand même. Ce serait parti de la barbe de capucin et après des essais qu'il a fait. Moi, je ne crois pas complètement au hasard et à l'accident. Je trouve que la théorie de l'accident, on la trouve un petit peu trop souvent.
Oui.
Et je pense qu'il y avait une vraie recherche de la part de ces gens-là. Et je vous ai amené un autre. Enfin, il y a plein de plantes qu'on peut blanchir parce qu'en blanchissant, on empêche la photosynthèse. Et donc, on va vraiment obtenir un adoucissement. Pour les gens qui ont du mal à manger les pissenlits, par exemple, qu'on trouve un peu amers, etc. Là, je vous en ai amené linéaire. Donc vous les prenez, vous les ramenez sur eux-mêmes, vous mettez une ficelle, et puis ça, l'intérieur va blanchir et ils vont être beaucoup plus doux.
Parce en que fait, en faisant ça, vous les privez de leur photosynthèse, et ils ne produisent pas donc de chlorophylle, ils restent blancs. Et moins amers.
Beaucoup moins amers, ouais. Alors après, par sélection, on a obtenu des variétés de moins en moins amères, quoi. Et au bout d'un moment, et c'est là que je rejoins des proches, à force d'être de moins en moins amers, il n'y a quand même plus grand-chose dedans.
Hein. C'est ça. Alors, on a nos trois gagnants, nos auditeurs et auditrices.
Ils ont été ultra rapides.
Hein. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On les cite à l'antenne, ils vont recevoir bientôt une boîte dont on va déguster, donc alors, dédicacée.
Les trois gagnants sont Eva Muller, à Aiguilles en Haute-Loire.
D'accord.
David Roman à Trept en Isère et Aurélie Catalo de Paris.
Bravo à tous les trois. Stéphanie Lequelec, vous l'aimez comment, l'endive ?
Pas à l'eau, ça c'est sûr. Moi j'aime quand on... quand on va justement aller chercher des sucs, aller rôtir, aller forcer un peu, retrouver l'amertume, parce que l'endive qu'on va rôtir comme ça, qu'on va démarrer, soit avec un petit filet d'huile d'olive, soit dans un beau beurre mousseux, ça va caraméliser. Là, on va justement aller rechercher l'amertume dont on a envie dans l'endive.
L'amertume, et en même temps, effectivement, comme vous le dites, quand on les pousse un peu en cuisson, ça caramélise, ça roussit légèrement, et ça prouve que l'endive peut être aussi porteuse de sucre.
Complètement, et ça amène la saveur. Et au-delà de ça, je l'aime pas trop cuite non plus, parce qu'on veut garder cette texture, on veut pas qu'elle libère complètement son eau, on veut pas avoir une feuille qui se tient plus du tout, une espèce d'embeurré comme ça. Non, on a envie d'avoir un peu de structure. Moi, j'aime quand à cœur, c'est encore un tout petit peu ferme.
Très bien. L'endive crue, en salade, vous suggéreriez à nos auditeurs quel genre de truc pour sublimer l'endive dans un saladier?
Et bah là encore, moi, j'irais jouer les amers. Donc on pourrait râper un peu aller chercher un peu le cédrat, on pourrait avoir des fines tranches de cédrat. Je la taillerais pas trop fin, l'endive, parce que là encore, je veux garder de la mâche, je veux garder de la texture. Donc peut-être simplement les feuilles entières coupées en deux dans la longueur comme ça, de fines tranches, de fines tagliatelles de cédrat, ouais. Et une petite vinaigrette, pourquoi pas un petit peu café.
Vinaigrette café?
Oui, amère encore là.
Alors comment vous la faites votre vinaigrette café?
Eh ben, on fait infuser, on prend une huile neutre ou une huile d'olive vierge, mais alors très douce, on va aller chercher sur des fruités mûrs. On va infuser comme ça les fèves de café, les grains de café, disons une nuit dans un bocal le parfait, tac, on ferme. Ouais. Et puis on obtient une huile de café qui bouge pas au frigo d'ailleurs. Hein. Soit dit en passant, les huiles comme ça infusées, on les garde dans un petit bocal, on s'en sert quand on veut. Et là encore, on va avoir une huile un petit peu brunie, avec une saveur un petit peu d'amère, de café. Et puis bah, si on revient sur le lien dans le nord, la chicorée café.
Il
y a un lien qui peut être un peu rigolo.
Très intéressant. Donc variation autour de l'amertume dans une salade d'endive. Et puis évidemment à la page champ. Arnaud.
Un truc aussi, feuille d'endive crue, comme on faisait à l'Hôtel de France, avec un bout de foie gras dessus, une goutte de bon vinaigre de vin rouge.
Oh, génial. Ça.
Et deux graines de fleurs de sel.
Voilà. Parce que le croquant et la jutosité de l'endive rafraîchit le foie gras,
j'imagine. Oui, et le gras aide à goûter cette amertume, justement. C'est ça qui est bien, et ça s'équilibre un peu avec une goutte de vinaigre, c'est parfait.
Je trouve que des vinaigrettes aussi à base d'agrumes, où on a à la fois un peu d'amertume et
un peu d'acidité.
Et le fruité, ça peut être des mandarines, et alors le citron, mais ça marche aussi très bien avec l'endive.
Ben ça marche hyper bien. De toute façon, la mer est balancée par l'acidité, le sucre. Enfin voilà, on parlait de sucre tout à l'heure, mais la seule façon de balancer un petit peu les amers, c'est pas d'aller chercher le sucre, c'est d'aller chercher l'acidité.
Recette d'endive au jambon, c'est page 148 de votre livre
148,
Cuisine.
Ouais. Elle est twistée celle-ci. Hein.
Elle est twistée, mais on va la faire classique et la faire un peu retwistée. Ouais. L'endive au jambon, bon, c'est une Madeleine de Proust pour bon nombre d'entre nous. Non, levez la main ceux qui ont mangé des endives au jambon.
Moi, j'adore
ou ceux
ça,
qui ont détesté les endives au jambon.
Ah non, moi j'ai
parce
adoré.
Parce que l'endive, c'est la relation entre les enfants et l'endive est assez complexe quand même.
Ouais.
C'est assez je t'aime moi non plus. Hein. Moi j'ai appris à l'aimer l'endive, ça n'a pas été facile.
Le problème de l'endive au jambon c'est quand c'est flotteux, sinon c'est super bon.
On est d'accord. Non. Alors le piège de l'endive au jambon,
c'est sur les endives à l'eau.
Faut éviter l'eau.
C'est quand on se retrouve avec une mare parce que l'endive a détrempé pendant la cuisson. Quelle est la solution Stéphanie?
Bah clairement garder les belles endives entières et puis les étuver gentiment dans une poêle, quasiment qu'elles crachent leur eau de végétation, un petit peu de beurre, commencer à les roussir un tout petit peu parce que là encore on va avoir un peu de concentration. On les refroidit à peine et puis moi dans la recette classique, moi ma maman mettait pas de béchamel, elle mettait une très bonne crème crue.
Oui.
Simplement, avec juste du gruyère râpé dedans.
Ouais.
Et il n'y avait pas le côté farine béchamel. Il y avait vraiment cette crème qui prenait tout le fromage, qui était enroulée dans une tranche de jambon assez généreuse. Et ça, c'est le goût de mes endives au jambon quand j'étais petite.
Et pourquoi pas ?
Mais pourquoi pas ?
En plus, c'est plus simple que de s'engager dans une
béchamel.
Ça dépend. Moi, je suis assez partant de la bonne béchamel.
Je suis assez d'accord aussi.
C'est voilà. Une texture très particulière aussi. Mmh.
Mais ça, c'est un peu perdu, la béchamel. On n'en trouve plus nulle part.
Les endives au jambon, signé Stéphanie Le Callec. Béchamel au parmesan, alors, super validé. Expliquez-nous. Donc, on est d'accord, légèrement braisé, notamment pour qu'elle rende un peu l'euro des endives. Voilà. Alors ensuite.
Attends, mais légèrement braisé, combien de temps ? Faut quand même qu'on...
Vous les faites colorer un peu ?
Ouais, à peine. Bah, j'irais 4-5 minutes, pas plus, parce que sinon, là encore, on perd la texture et on n'a pas envie d'avoir un légume complètement confit. Moi, j'aime bien garder la texture.
Et puis, le fait qu'elle sorte l'eau et qu'elle la réduise, ça...
Bah, ça concentre aussi la saveur. L'eau de végétation, elle va d'abord sortir, puis elle va réenrober le légume, elle va le glacer naturellement, finalement.
Exactement.
Et donc, ça va être formidable. Alors après, là, moi, je fais une petite béchamel. Parmesan, vieux parmesan, oui. Généreux,
oui.
Pour avoir le petit côté piquant, parce que le vieux parmesan, ça apporte cette petite note comme
et
ça,
puis
légèrement
cette
piquant.
Sapidité extraordinaire.
Et puis ça pepse. Et puis on peut s'amuser avec un jambon cru, on peut s'amuser avec une belle cécina de bœuf, parce que l'endive au jambon de bœuf, pourquoi pas.
Mais allez jusqu'au bout, Stéphanie, une béchamel, là, comme ça, on va pas vous la demander en direct, il n'y a pas de plaque de cuisson. Mais comment on s'y prend dans la casserole ?
Un roux, sans colorant, un temps pour temps, beurre, farine.
Un temps pour temps, beurre, farine.
30 grammes.
Un temps pour temps, beurre, farine, temps.
Et du temps. Et le temps, surtout, donc on fait fondre le beurre, on ajoute la farine et on attend 2-3 minutes, non pas qu'il roussisse le roux, parce qu'on veut le garder blanc pour la béchamel. Mm-hmm. Néanmoins, que le grain d'amidon de la farine ait le temps d'éclater. Mm-hmm. Sinon, il ne fait pas son job derrière quand on amène le liquide.
Donc à feu très doux ?
À feu très doux. 1 ou 2 minutes, comme ça, on garde le blanc. Ensuite, on verse. Alors, moi, j'aime bien mettre moitié lait, moitié crème, parce que c'est mon petit côté un peu riche et généreux. Donc voilà, qu'on met chaud. Sur le roux.
Je pensais qu'elle était bretonne, mais en fait elle est normande, Stéphanie.
Oui, c'est ça.
Alors, je suis mariée à un breton et j'ai une maison en Normandie.
C'est ça, ah ben voilà.
Mais je suis parisienne, vous avez vu, c'est pas mal.
Vous êtes pour la paix des régions françaises, c'est bien.
Et j'adore le sud de la France, François-Régis.
Et bien sûr, voilà. Puisque vous y avez notamment eu une partie de votre expérience culinaire.
Voilà, donc le liquide chaud sur le roux. 2 tours de fouet, tac tac, pendant 2 minutes au-dessus du feu, ça reprend une ébullition, on laisse cuire, et puis c'est le tour est joué.
On rectifie l'assaisonnement.
Et là, à chaud, voilà, un bon tour de moulin à poivre. Là, on va pas trop saler parce qu'on a le jambon, on a le parmesan, donc attention, soyons timides un peu sur le sel au début. Et puis voilà, le fromage à chaud, on nappe nos endives avec ça, le jambon, gratiné, très important, l'endive, elle est gratinée derrière.
Elle fait très envie, la photo de votre livre, page 141.
Et puis ça peut suffire, et c'est rapide, encore une fois. Ouais. Le message, et le message du livre, c'est qu'aujourd'hui on peut manger avec des produits du quotidien, bien, mais sans prendre de temps, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de faire la cuisine.
Enfin, on n'a plus le temps, on peut le prendre le temps.
Oui, on peut le prendre, mais quand vous avez fait votre journée de boulot, en ce moment que les gens rentrent tard, etc., ça c'est un plat qui vous prend 15-20 minutes à faire, je trouve que c'est assez
honnête. Vous pensez au scandale de la dernière campagne de publicité pour... Uber Eats, on va appeler ça comme ça, dans les métros, etc. Ils se vantent qu'on n'ait plus le temps en cuisine et qu'on ait trouvé la solution en livrant effectivement des plats tout cuisinés.
Oui, ou alors on peut cuisiner des choses simples et rapides et efficaces.
Absolument.
On peut, même quand on n'a pas le temps, faire de la cuisine à la maison.
Même avec des légumes d'hiver qu'on considère souvent comme un peu tristes. Et vous nous disiez en amorce de cette émission, Xavier Mathias, que l'automne, les saisons froides sont vraiment les saisons des légumes en réalité.
Ah oui, là on a l'embarras du choix. Moi j'aime beaucoup l'été, mais je le trouve un peu fade au bout d'un moment. avec tous les fruits. Non mais c'est vrai, et là l'hiver...
On avait fait une très belle émission sur la tomate en juillet dernier, voilà. Souvenez-vous.
Là par exemple, si on aime manger un peu relevé, j'ai amené du réfort. Voilà le condiment dont on a envie là. Et alors, sachons aussi que plein de gens aiment le réfort parce qu'ils en mangent beaucoup sans le savoir. Mm-hmm. Ce qu'on trouve en France sous le nom de wasabi, en fait, c'est du réfort. Donc voilà une plante extraordinairement facile à cultiver quand on a un jardin. Sur un balcon, ça marche très bien. Et voilà, on a envie de ça. On a envie de saveurs chaudes, de choses et parfaitement de saison. Mais on peut continuer comme ça.
C'est hyper bon avec de la crème crue, Stéphanie.
Ah, c'est délicieux. Ouais. Sur un céleri rémoulade.
Ah oui, je confirme.
Qu'est-ce que vous avez là ? On dirait un radis.
Ouais, voilà. Donc les radis, on a les radis noirs longs, classiques, etc., qui sont très bons et qui me permettraient de moins tousser si j'en mangeais plus. aussi.
Vraiment aussi. aussi pour le foie, paraît-il.
Oui,
dépuratif, état dépuratif.
Oui, en fait, tout ce qui est radis noir, etc., ça a été maintenu comme plante médicinale. Hein, et on a redécouvert de les manger finalement assez récemment. Hein, c'est au 19e hein, qu'on se remet à les consommer. Mais ce que je voulais juste montrer, c'est que ça pouvait être très coloré aussi.
C'est
très,
beau.
Là, donc ça, c'est un redmite, donc avec une couleur presque grenadine à l'intérieur et qui est vraiment agréable.
Donc une peau verte, verte et blanche, et puis effectivement un cœur fuchsia.
Voilà, avec aussi ce côté un peu relevé, un peu piquant déjà, qui justifie qu'on mange du beurre avec. Mm-hmm. Donc ça, c'est important.
Voilà,
on
n'a
pas de problème avec ça.
Du gras. Il faut du gras avec le radis, c'est important.
Stéphanie, les radis, ça vous inspire ?
Ouais, j'adore. J'ai longtemps fait une entrée d'ailleurs au restaurant autour du radis beurre, fève de tonka.
Oui.
J'adore.
Elle consistait en quoi ?
Elle consistait en un petit tartare de radis accru.
Quel radis ?
C'était le petit radis rose rond classique. Des radis cuits au sel, du red meat, cuit au sel. Comme ça, en fines tranches dessus. Et puis, je faisais une espèce de petit sabayon infusé fèves de tonka, beurre noisette, comme ça, qu'on mettait aussi fond dessus. Et par-dessus, on centrifugeait du jus de radis légèrement collé, des petites tranches de radis en pickles, et ça venait coiffer l'ensemble. On servait un petit pain feuilleté à la fève de tonka avec. C'était la muse-bouche à l'époque des deux étoiles.
Certains murmurent dans le milieu que vous êtes la prochaine trois étoiles. Enfin, on va pas.
Non.
Enfin, comment ça, non, si.
Non, mais je veux dire, laissons
la
revenir.
Oui, non, j'aurais jamais dû lâcher cette phrase, vraiment.
Le bonheur d'être dans ma maison, avant tout, avec des clients heureux de me retrouver et moi de les retrouver.
Et vous, qui vous baladez de table en table avec des paniers, aujourd'hui, je vous cuisine ça.
Avec des couasses, ouais.
Vous montrez, il y a du gibier, il y a des légumes, c'est vraiment...
C'est l'aubergiste, c'est l'auberge moderne, quoi.
C'est une expérience assez éblouissante. J'entendais radis cuit au sel, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Mais comme on cuirait une betterave, c'est-à-dire que là, le radis red meat comme ça, vous le mettez complètement dans
du gros sel.
Ouais, en croûte de sel, complètement au four, une heure et demie. Et puis c'est délicieux, ça permet, parce que le radis finalement on le consomme toujours cru, mais c'est délicieux aussi cuit.
Très bien, on va faire une toute petite parenthèse au risque de froisser un peu notre expert du potager, Xavier Mathias. Une parenthèse chou-fleur, j'ai dit au téléphone, on va parler chou-fleur, Xavier me dit, mais c'est plus la saison chou-fleur, où on y arrive.
C'est la fin de la saison.
Mois de décembre pour manger du chou-fleur, après c'est moins bien.
Voilà, alors après, réchauffement climatique obligeant, on les a quand même de plus en plus longtemps, hein, malgré tout. Moi, je me rappelle quand on cassait la feuille sur le chou pour empêcher les petits dégâts de gel qui restent bien blancs, etc. Et on faisait ça au mois d'octobre-novembre, quoi. Et maintenant, ils tiennent, hein, y a pas de problème. Ça fait quand même pas mal d'années de suite.
Dans un instant, Stéphanie Lequelec va nous faire goûter une très jolie création, mais vraiment, vraiment réalisable à la maison. Un chou-fleur, une pomme de chou-fleur entière, rôtie. Et c'est vraiment prodigieux. Là, il y a des...
Ça brille,
roussi par une cuisson qu'on imagine bien beurrée. Mais juste avant, c'est la chronique chou-fleur, justement, d'Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Alors, on connaît tous les gnocchis, ces petits boudins de farine de blé et de pommes de terre dont Laurent de Médicis chantait les louanges au XVe siècle. On les poche à l'eau, on les fait revenir à la poêle.
On attend qu'ils remontent à la surface,
Tout ça. On connaît notamment la recette des gnocchis à la Sorrentina qu'on mange en Campanie.
Alors ça, tomates et mozzarella.
Basilic, parmesan, gratiné au four.
Ouais.
Moi, je vous parle d'une version alternative qui ne contient pas de pommes de terre, mais du chou-fleur presque à 100%. Alors chou-fleur en anglais se dit cauliflower. Donc, gnocchi de chou-fleur, cauliflower, gnocchi. Alors, pourquoi en anglais ? Eh bien, tout simplement parce que le cauliflower gnocchi, c'est le plat qui enflamme les réseaux sociaux culinaires aux États-Unis depuis que la marque industrielle Trader Joe's les commercialise outre-Atlantique. Alors, Trader Joe's, c'est une chaîne de supermarchés californienne à l'origine, mais qui a connu un essor assez incroyable partout aux États-Unis.
Oui.
90% de ses produits sont ceux de sa propre marque distributeur, plutôt bio, plutôt sans OGM, sans colorant et sans conservateur, ce qui n'est pas si mal pour des supermarchés américains.
Pour un produit industriel.
Ceci étant dit, leurs best-sellers sont, accrochez-vous, la confiture de bacon, et on reste quand même aux États-Unis, et ce fameux cauliflower gnocchi, qui apparemment est une réussite totale et qui est régulièrement en rupture de stock. Au point qu'on trouve pas mal de sites qui proposent, et je cite, des recettes de cauliflower gnocchi aussi bonnes que celles de Trader Joe's.
Incroyable.
Ça m'a intriguée. Donc on sait qu'on peut faire des gnocchis avec de la patate douce, on sait qu'on peut faire des gnocchis avec de la courge.
Mmh, c'est bon.
Donc pourquoi pas avec tout légume à pas trop grande teneur en eau et contenant un petit peu d'amidon. Alors là, j'ai besoin de l'aide de Xavier. Il y a bien un petit peu d'amidon dans le chou-fleur.
Par exemple. Oui. Après, on peut dériver sur mille idées comme ça.
Ouais.
L'idée, c'est de sortir de la pomme de terre, quoi, tout simplement. Exactement. Elle a une mauvaise image, notre malheureuse pomme de terre.
Oui, toujours.
Oui, ça continue. Et donc, on essaye de tourner autour.
Mais là, franchement,
Attendez.
Non, mais ce que j'ai fait circuler autour de la table, c'est gnocchi de chou-fleur. L'avantage, c'est qu'on a quand même le goût du chou-fleur.
C'est quand même très élastique.
Ouais,
parce qu'évidemment,
c'est texturé.
J'aime bien la manière, l'euphémisme de Stéphanie. Bah, fatalement, il y a moins d'amidon dans une pomme de terre, donc il faut compenser en ajoutant un peu de fécule de pomme de terre ou un peu de farine de blé. Moi, j'ai mélangé un peu les deux parce que je ne savais pas très bien me servir de la fécule de pomme de terre. J'ai déjà fait un premier essai il y a quelques semaines. C'est mon deuxième essai. Pour tout vous dire, celui-ci est plutôt plus réussi que le premier.
Mais attendez, moi, je trouve ça super bon. Hein. D'ailleurs,
moi, je trouve ça très bon aussi.
Avec un petit beurre de sauge.
Ouais, le petit beurre de sauge, il va bien autour encore.
Donc, on fait cuire son chou-fleur à la vapeur. Moi, je l'ai pressé après dans une étamine pour essayer de me débarrasser de l'eau qui restait quand même. Il y a quand même pas mal de flotte qui en sort. On mixe le chou-fleur ainsi cuit avec un jaune d'œuf. Et on le travaille après avec fécule de pomme de terre et ou farine de blé, sel, poivre. Mais effectivement, ça fait moi, je trouve ça très bon.
Oui.
Et ça fait quand même une texture. Alors, les fameux.
Moi, j'adore
gnocchi,
cette texture parce que j'aime tout ce qui est tapioca quand ça commence à être un peu.
Faut aimer le tapioca. Non, visiblement, la vertu du gnocchi de Trader Joe's aux États-Unis, c'est son élasticité. Donc, de ce point de vue-là, je crois que j'ai plutôt rempli ma mission.
C'est une texture inflateuse et en plus, ça peut être une bonne stratégie pour faire manger du chou-fleur aux enfants.
Ouais, complètement. On va dire ça.
Cette texture un peu chewing-gum. Très bien. Non, vraiment, bravo. Les gnocchis de chou-fleur, on va dire ça comme ça.
Bah oui, on n'est pas obligé de le dire en anglais. Hein.
Mais faisons des gnocchis avec tout.
Mais oui.
Ouais, et on voit beaucoup aussi apparaître les gnocchis de patates douces.
Artichauts, super.
Pourquoi pas des gnocchis de panais avec cet énorme
Les gnocchis de panais, c'est formidable. Ça passerait, c'est formidable. Je confirme. J'en ai eu fait pas mal.
J'en suis persuadé. Juste après notre pause musicale, dans un instant, c'est justement le chou-fleur qui passe aussi à la casserole avec Stéphanie Lequelec, à travers une tactique culinaire très sympathique qui donne un super résultat. Je voudrais prendre une photo, ne le couplez pas tout de suite.
Je ne coupe pas, je ne fais rien.
On parle donc chou-fleur, mais aussi céleri rave et d'autres légumes d'hiver après Papa de la chanteuse britannique originaire de la Grenade, Alani. Cette Grenade, cette île des Caraïbes qu'on surnomme l'île aux épices. Bon appétit sur France Inter. Take me. Nous sommes en direct avec la chef Stéphanie Lequelec et notre pote du potager Xavier Mathias et nous réchauffons les légumes d'hiver. Ouais, et ils passent dans les casseroles notamment de Stéphanie Lequelec. On vous avait promis une recette un peu surprenante à base de chou-fleur. On peut en profiter encore pendant quelques jours, voire quelques semaines. Après, il faudra...
On se donne jusqu'à Noël.
Voilà, on se donne jusqu'à Noël. Après, on se calmera un peu. Et là, j'ai sous les yeux une petite pomme de chou-fleur entière. Ce serait un peu comme une pomme de riz de veau finalement.
Exactement.
D'ailleurs, ça en a la même couleur lorsque
c'est rôti. D'ailleurs, je le sers avec le riz de veau. Vous ne croyez pas si bien
dire. Et ben voilà, donc ça fait ton sur ton, non ?
Exactement.
On est dans les couleurs brunes, rousses.
On est fin d'automne, là, ouais.
Et ça, c'est la preuve d'un rôtissage patient au sautoir avec du beurre, non ?
20-25 minutes au-dessus d'un beau petit sautoir, beurre demi-sel, et on arrose, et on arrose, et on arrose.
Vous partez vraiment de la pomme de chou-fleur ?
Cru.
Il n'y a pas d'après avant ?
Rien du tout.
Alors là, le format est plutôt mini ?
Ouais, parce que pareil, le légume est récolté assez jeune, assez concentré, et on enlève les feuilles, et puis on rôtit avec amour. Et la particularité, c'est que là, je vous l'ai servi avec un sabayon qui est émulsionné avec le beurre qui a servi à cuire.
Donc, il y a un peu noisette.
D'abord, qui est un beurre noisette, qui s'est complètement gorgé des saveurs du chou-fleur.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est trop bête d'abord, économiquement, de se séparer de ce beurre-là, et de pas, parce qu'on a la quintessence du goût du chou-fleur dans ce sabayon finalement. Donc voilà, l'ensemble fait plutôt pas mauvais ménage, quelques pics de chou-fleur pour ramener un petit peu d'acidité, casser le gras, du chou-fleur rôti et puis tout simplement.
Arnaud Daguin a la moustache qui frise.
Ça déménage.
Ça tamponne.
Ah ouais, c'est formidable.
Mais combien de beurre et combien de temps d'arrosage?
Le beurre, c'est à vous.
Il faut parler de ces choses-là.
La question qui fâche.
S'en fout.
Et pour être honnête, j'ai vu passer une vidéo, vous l'avez mise sur vos réseaux sociaux.
Ouais.
Du rôtissage de ce chou-fleur. Il y a un petit peu de beurre.
Oui, il y a un petit peu de beurre parce que la cuisine, il faut être généreux, François.
Oui, mais le beurre, c'est l'outil.
Jamais assez.
Et le gras est la vie, comme dirait tonton Daguin.
Le gras, c'est la vie, mais tellement.
Et on arrose combien de temps?
Bon, voilà. Là, on a passé 20-25 minutes. En revanche, je vous parlais de gagner du temps à la maison. C'est aussi faisable en se disant un four bien chaud, 180 degrés. On le démarre simplement à la poêle. On l'agresse un tout petit peu. Tac. Ensuite, on le met au four. Et en revanche, on s'en occupe quand même toutes les 5 minutes. On va l'arroser un petit peu quand même.
C'est la folie, ce plat.
Ouais, c'est
la folie.
Mais c'est quand même l'exemple, encore une fois, qu'autour d'un simple légume complètement désuet, parce que le chou-fleur,
bon marché,
on arrive à faire, pardonnez-moi, mais je pense un grand plat.
Oui, absolument. Et vous m'aviez promis une sauce, mais ça, les auditeurs la retrouveront à la page 72 de votre livre Cuisine, une sauce. Cacio et pépé. Cacio, fromage, pépé et poivre.
Exactement.
C'est la fameuse sauce des pâtes romaines.
J'aime tellement les pâtes cacio et pépé que je me suis amusée, pareil, pour aller chercher un petit peu de puissance. Le chou-fleur supporte bien le poivre, va aussi supporter ce petit pecorino. Donc je me suis amusée effectivement à twister un chou-fleur cacio
et
pépé.
Et moi, j'ai pas encore goûté parce que j'ai pas le temps. Et ça va pas tarder. J'espère que vous allez m'en laisser un petit bout, les copains. En tout cas, très très belle réussite que ce chou-fleur rôti entier. On les voit beaucoup, les chou-fleurs rôtis en ce moment. Hein. C'est d'ailleurs un truc assez oriental.
Dans la cuisine levantine,
ouais. Nous qui avions l'habitude, dans la cuisine française, de respecter le chou-fleur dans sa virginité, dans
très
sa blancheur.
Blanc, cuit dans un blanc.
Absolument. D'où d'ailleurs la soupe du Barry.
Hein. La crème du Barry.
En hommage à la blancheur de la peau lactée de la comtesse du Barry, quand même. Hein. Donc on était plutôt dans le blanc. Et là, ça y est, on commence à donner du caractère.
On le fait carrément cramer un peu trop.
Hein. Faut pas l'agresser non plus, quoi.
Ouais. Non, il faut que ça aille avec amour, gentiment, qu'il aille sur un côté doré. Mais franchement, c'est des fois pas très agréable. Hein. Le goût du chou-fleur bouilli comme ça, l'eau qui est presque un peu soufrée, etc. C'est pas très glamour. C'est aussi pour ça que petit à petit, on s'est éloigné de ces légumes-là. Parce que finalement, on les préparait plus de manière.
Non, en vrai, aucun légume n'est bon bouilli.
Non, rien. Ah, bah moi, je.
On laisse ça aux amis anglais, c'est ça? Ouais, ça y est. Allez, les pauvres anglais, on aime bien leur cuisine et on les aime. Passons à un autre légume avec lequel Xavier Mathias entretient des relations tout à fait ambiguës de je t'aime, moi non plus. Je cite ce petit texte extrait et c'est pour vous montrer à quel point aussi Xavier a la plume alerte. Cet extrait de La vie érotique de mon potager aux éditions Terre Vivante que vous avez commis il y a quelques temps.
Ouais,
vous étiez venu d'ailleurs nous en parler. Voilà ce que vous écrivez au sujet du céleri rave. Je ne peux m'empêcher, quand au moment de récolter mes céleri raves, quand je les vois sagement alignés, leurs grosses bouilles à ras du sol, un toupet de cheveux verts que le froid a mis à mal émergeant à grand-peine du dessus de leur front plissé, de leur rappeler combien ils ont été pénibles, mais vraiment pénibles. Cela a commencé par le semis, avec leurs graines ridiculement petites, qu'il ne faut quasiment pas enfouir, mais qui ne doit surtout pas dessécher. Ensuite, ce n'est pas un, mais deux repiquages qu'il faut à ces messieurs pour leur permettre d'accélérer un peu le mouvement et mettre toutes les chances de leur côté. pour obtenir eh bien, de belles raves. Compliqué à cultiver, oui, le céleri rave.
Oui, c'est une plante qui est originaire des marais. À l'origine, on a l'âge des marais, hein, qui, ce qu'on appelle le céleri perpétuel, et duquel on tire deux légumes, le céleri rave et le céleri branche. Mais ils ont vraiment un ancêtre commun. Et cette origine des marais, donc c'est quand même un milieu très très propice à certaines plantes. Il faut essayer de la recréer. C'est-à-dire avoir un sol très riche, avoir une humidité quasiment à tenir. Donc oui, ils sont un peu pénibles, les céleris. Par contre, c'est une belle récompense, quoi.
Ils sont tellement bons.
Ah, puis une couleur albâtre, c'est pour moi, quand on les réussit bien, et il y en a une variété qui s'appelle marbre, et boule de marbre. Effectivement, il y a un côté marbre à l'intérieur qui est vraiment très beau.
Marbre de Carrare, c'est ça?
Ah, quand même, ouais.
Avec, effectivement, des petites marbrures. Botaniquement, vous nous situez le céleri rave?
Alors c'est une ombellifère,
ouais.
C'est la même famille que les carottes,
on peut aussi appeler apiacées, hein.
Voilà,
que
c'est
la ciguë,
ouais. Que la ciguë aussi.
Alors, ce fameux poison.
Voilà. Alors il y a plein de choses, hein, dans le céleri, dont les graines qu'il faut consommer comme des plantes, comme un aromate, hein, vraiment. Donc avoir un céleri qui graine, c'est pas forcément un problème. Moi je trouve que la livèche dont je parlais tout à l'heure, par exemple, ou les céleris à couper, parce qu'il y a trois types de céleri. Il y a le céleri branche, le céleri raf et le céleri à couper. Je trouve que le meilleur pour la livèche et le céleri à couper, c'est la graine, en fait.
Quand vous citez la livèche, on pourrait dire, ou c'est un raccourci de dire que c'est un peu l'ancêtre...
C'est l'ancêtre commun.
Ouais, qu'on retrouve encore d'ailleurs en cuisine,
très
la livèche.
À la mode, très à la mode de la livèche.
Pour ses feuilles, hein.
Pour ses feuilles uniquement, voilà. Centrifugées, en jus, c'est extrêmement vif, ça vient réveiller un plat d'une façon extraordinaire.
C'est puissant, hein.
Puissant, ouais. Hein.
Très, très puissant, faut doser.
En parlant de puissance, là, vous nous avez fait une sale surprise.
Oui, des graines, oui.
Genre farce et attrape.
Voilà, oui. Parce que toute petite graine minuscule, là, dont je parle dans ce texte, effectivement, mais attention, c'est concentré.
C'est explosif.
Ah oui, vraiment.
Et puis.
Voilà, ouais, et puis ça très, vient très après. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait le sel au céleri, soit avec, en faisant dessécher certaines parties et en parfumant du sel, ou en mélangeant tout simplement les graines. On se rend bien compte qu'elles ont la force de tenir le sel.
Hein. C'est extrêmement intéressant.
Comment on pourrait, Stéphanie Lequelec, c'est très compliqué cette question, comment on pourrait définir le goût du céleri? Qui fait d'ailleurs que c'est un goût tellement identifiable que beaucoup
qu'on
de gens...
Qu'on adore ou qu'on déteste d'ailleurs.
Que beaucoup de gens n'aiment pas le céleri.
C'est très segmentant le céleri finalement, ça fait partie. Mais j'adore l'idée d'avoir quelque chose de caractère, parce que moi-même, j'aime bien quand c'est un peu affirmé.
C'est puissant, c'est épicé.
C'est très aromatique, je trouve que ça tapisse. Ouais, c'est herbacé plutôt.
C'est anisé,
je trouve que
aussi,
la définition,
c'est anisé,
c'est ça.
J'allais le dire.
Ouais.
C'est anisé.
Il y a herbacé, puis il y a un côté, il y a une opulence, quoi. C'est ample, ça prend tout.
On l'avait déjà remarqué à l'occasion d'une émission précédente, cher Xavier Mathias, mais il paraîtrait que le céleri serait aphrodisiaque.
Mais c'est pas il paraîtrait, c'est pas serait, c'est pas parfaitement vérifié. Il contient de l'apigénine, le céleri. Et donc, il y avait un dicton autrefois qui disait voilà, si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris jusqu'à Rome. Donc voilà, ouais, quand même, oui, petite promenade digestive. Et donc, non, en fait, l'apigénine, effectivement, favorise la production de testostérone, etc.
Ouais, et il paraît qu'elle stimule, dites-vous, je vous lis, la spermatogénèse, elle a de véritables effets vasodilatateurs, propriété qu'avait probablement remarqué Madame de Pompadour, elle aussi, qui proposait régulièrement un potage de céleri à son Louis XV préféré.
Bah oui,
il faut assurer. Hein.
Ouais. Voilà, ouais, c'est une espèce de phytothérapie douce.
C'est ça, et ce n'est pas du tout la raison pour laquelle Stéphanie Lequelec aime le céleri. Vous l'aimez
pas du
pour
tout, parler. Pas du tout, pensez
vous l'aimez pour son côté charnu, légèrement fibreux, et vous avez décidé de revisiter pour nous un plat vraiment emblématique de la cuisine française, assez connu, je l'ai remarqué chez nos amis, notamment gourmets américains qui viennent nous visiter, quand ils nous demandent des adresses, c'est souvent où est-ce qu'on peut manger des œufs mayonnaise, où est-ce qu'on peut manger...
Ouais, bah c'est le plat de bistrot, c'est l'entrée.
Céleri remoulade.
C'est l'entrée de bistrot, voire de routier par excellence.
Céleri remoulade, au départ, on est vraiment sur du céleri rave, râpé, cru, un peu comme une carotte. Et qui est ensuite assaisonné au départ d'une rémoulade, mayonnaise, rémoulade, on veut y voir plus clair avec vous Stéphanie.
À l'origine, une rémoulade, il n'y a pas d'œuf en fait. C'est l'émulsion est faite uniquement à base de la moutarde, donc c'est une espèce de... presque de vinaigrette, sauf que elle émulsionne grâce à cette base de moutarde. Et d'ailleurs, on comprend parce que l'œuf, finalement, le jaune d'œuf a cette vertu de venir masquer un petit peu les saveurs. Il y a côté un peu qui endort les saveurs. Donc c'était très vif la rémoulade. Là, je vous ai fait une vraie rémoulade.
Incroyable. Non, mais attendez, racontez-nous, surtout décrivez-nous cette assiette, parce que là, on est quasiment dans de la
haute
couture, dans de la haute couture avec des rubans.
C'est la collerette de Sully, ou là, ça peut faire un peu fraise de veau.
Une fraise, oui, de veau ou d'Henri IV.
Oui,
la
c'est
fraise.
Ça. Ouais.
Exactement.
C'est bien dit.
Une petite fraise d'Henri IV, ouais.
C'est ça, donc on est vraiment sur des rubans,
rubans
qui serpentent,
voilà,
comme
exactement.
Ça, des serpentins.
Mais finalement, on est sur l'épaisseur du céleri rémoulade qu'on connaît, sauf qu'au lieu de le tailler en julienne, j'ai laissé les bandes larges volontairement. Il est accru, on lui a rien fait, je l'ai simplement nappé d'une véritable rémoulade, donc une base de cuillère, une cuillère en base de moutarde,
oui.
Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et ensuite j'ai émulsionné ça avec une huile infusée à la cardamome verte.
Ah, une huile infusée, donc une huile neutre, la
infusée,
même système, on prend des capsules
exactement.
De cardamome.
Cardamome verte, simplement à peine grillée, éclatée, que j'ai laissé infuser cette nuit, et j'ai monté cette petite rémoulade ce matin, et je suis simplement venue napper les céleris.
La cardamome, c'est génial,
quand
ça donne une fraîcheur.
Une fraîcheur, une verdeur. Quand vous infusez vos huiles neutres avec du café ou de la cardamome, etc., vous le faites à froid ou vous
à froid.
Faites chauffer?
À froid, parce que le fait de chauffer, même à peine tiédir une huile, moi je trouve en modifie les propriétés et le goût, ça rancit tout de suite. Donc j'aime bien garder les huiles à cru.
Une huile de cardamome, ça peut être tournesol, pépin de raisin?
Ouais, pépin de raisin, c'est bien.
Vous en mettez quelle quantité pour combien de capsules de cardamome?
Vous mettez un demi-litre d'huile pour 2 cuillères à soupe de cardamome.
De capsules ou de...
Ouais.
Ou éclatées?
Ouais, je préfère en capsule. Parce que la poudre va amener, pareil, un côté un peu pâteux, puis va être trop fort. Je préfère toujours partir du grain ou de l'épice brute.
La poudre peut être un peu âcre. Hein.
Ouais, exactement.
Et le lendemain, il y a du goût.
Et le lendemain, mais ça, franchement, c'est fait hier soir.
Ouais.
J'ai mis les grains à 23h et ce matin, j'ai monté la rémoulade.
Et si on n'arrive pas à faire des rubans parce que c'est un peu compliqué, on ne peut pas.
Classique. Des fines tranches, hein.
Aujourd'hui, ou des fines tranches.
À la maison, on a tous ces petites mandolines japonaises, dès qu'on cuisine un peu, c'est le genre de petits accessoires qu'on achète même sur le marché. Des fines tranches de céleri, tout simplement.
Avec un économe, ça le fait pas?
Si, bien sûr.
Si, bien sûr. Ou sinon, on les fait râper.
Mais voilà. Après, on peut garder
au castor.
Alors, Xavier, vous avez goûté?
Ouais, moi, je trouve ça très bon parce que dans le céleri, je trouve toujours une petite saveur de noix derrière qui est discrète. Et là, on la perd pas. On a encore ce petit goût de noix, moi, que j'aime vraiment beaucoup, que j'associe vraiment au céleri.
Ce qui est amusant, c'est que l'attaque est vraiment sur la cardamome. On se dit, putain, ça va tout emporter, mais pas du tout. En fait, elle s'efface gentiment. Et là, tout d'un coup,
mais grâce au taillage du céleri et à la quantité, c'est-à-dire qu'on a mis à peine, on a à peine nappé, et le céleri est quand même très présent grâce à sa taille.
Maîtrisé.
Parce que ce qu'on supporte pas aujourd'hui avec les dérives sur le céleri rémoulade, c'est quand il y a trop de sauce, que le céleri baigne dans la sauce.
Trop gras.
Et on perd complètement la texture.
C'est la plus forte, Stéphanie Lequelec, vraiment encore pour cette recette que nos auditeurs, évidemment. Alors, cette recette ne figure pas dans votre livre.
Non, mais dans le
vous l'avez
mieux,
fait
peut-être.
Spécialement pour On va déguster. On la retrouve sur franceinter.fr à la page On va déguster le coup de l'âme d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Alors, sujet d'aujourd'hui, les racines. Quel dommage que mon père soit injoignable. Il est maintenant aux premières loges pour les apprécier, notamment celle des pissenlits. Mon père, donc, vous ne l'ignorez pas, se trouve actuellement 6 pieds sous terre à tutoyer les tubercules. Daguin, mon daron, dépassé, vaincu, décortiqué par un crabe. Le crabe, crustacé sournois qu'on maîtrise peu dans les cuisines du Gers. Je vous le dis tout net, si le cancer était un canard, c'eût été une autre histoire. Et puis le crabe au pancréas, croyez-moi, c'est dégueulasse. Alors que les langoustines au foie frais du paternel, ça, c'est bon. Mais revenons aux racines. Tiens, je vais vous causer un peu des miennes, comme ça vous comprendrez mieux pourquoi je vous rebats les oreilles avec mes histoires de réconciliation avec le vivant. Profitons donc de la mort pour parler du vivant. Quand on naît et qu'on grandit, comme mes sœurs et moi, dans un hôtel-restaurant de qualité, on est éduqué par un triptyque singulier, un arbre culturel à 3 racines, la famille, le personnel et les clients. 3 souches différentes d'informations sur le monde que l'on découvre en grandissant. La famille fait son job familial en transmettant ses valeurs, ses exigences et sa mémoire dans le peu de temps que lui octroie le sacerdoce hôtelier. On comprend bien que ces messages sont concis, voire lapidaires, et ne supportent que très peu la discussion. L'emploi du coup de pied au cul comme outil pédagogique y est fréquent, et, je l'avoue ici, assez efficace. Le personnel, cuistot, plongeur, maître d'hôtel, gouvernante, réceptionniste, illustre la puissance d'une équipe quand elle joue bien. L'importance de chaque talent pour obtenir un collectif bien plus grand que la seule somme de ses parties. Les clients, eux, tous différents, mais tous un peu les mêmes, vous rappellent par leur simple présence dans votre maison qu'ici, on partage des choses qui ont un prix et que donc, la valeur de ce que l'on partage doit être à la hauteur du prix que l'on en demande. Ils sont l'incarnation de l'exigence et leur nombre suffisant signe la réussite. Bien sûr, certains ne sont jamais contents. Mon père disait parfois que d'aucuns mal embouchés avaient mal mangé avant même de s'asseoir. Dans cet arbre à trois racines circule en continu une sève précieuse, un flux essentiel, les produits agricoles, les vins, les légumes, les fruits, les volailles, la viande affluent en permanence. Tout cela est stocké, vieilli, maturé, découpé, mijoté, dressé joliment pour être enfin servi. Toutes ces pratiques, bien sûr, étant issues de savoir-faire innombrables, transmis et améliorés depuis la nuit des temps. Mais quand on est petit et qu'on vit là-dedans, ça paraît normal. C'est en grandissant et en allant voir ailleurs qu'on s'aperçoit de la valeur de ces choses. Quand j'étais gamin, la plupart de ces produits formidables nous étaient livrés par les producteurs eux-mêmes. Souvent, nous leur rendions visite et nous aimions beaucoup ces journées campagnardes à regarder, comprendre et ressentir le cœur même du vivant. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, à vous tous qui aimez les bons produits et la bonne cuisine, c'est sans doute parce qu'il m'apparaît de plus en plus clairement qu'il est fondamental d'avoir à l'esprit que rien, ni personne, ne peut vivre ni survivre tout seul dans son coin. Comme pour les arbres ou les plantes, la production de valeur, quelle qu'elle soit, est toujours le fruit d'une coopération et certainement pas le fruit d'une compétition. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui, ces derniers jours, m'ont raconté comment André Daguin les avait aidés et encouragés à mener à bien leur projet. Comment il était actif en permanence pour rassembler les énergies autour d'objectifs communs. En cette époque de peur, de chacun pour soi, et souvent du tous contre tous, il me paraissait important de partager cela avec vous. Alors que l'on se compare à un chêne ou à un roseau, à un rosier ou à un artichaut, chérissons nos racines, choyons la bonne sève et restons bien vivants.
Merci beaucoup Arnaud. Merci, merci. Et on salue à nouveau la mémoire de votre papa disparu le 3 décembre dernier, André Daguin, hein, qui a laissé quelques traces dans l'histoire de notre gastronomie. Un grand nombre de plats et de techniques, notamment autour du canard. On y reviendra régulièrement dans les semaines prochaines. Merci beaucoup en tout cas pour ce très bel hommage autour des racines. Le panais. On a vu ce truc énorme, extraordinaire, rapporté par Xavier.
Ouais.
Une petite leçon de choses autour du panais.
Bah rapidement, donc c'est une ombellifère aussi. Il y a eu toute la légende, une jolie légende hein, que j'aime beaucoup aimer entendre sur les légumes oubliés, légumes anciens, etc. Bien souvent, historiquement, c'est faux. Là, on voit là un vrai légume ancien.
Voilà.
Et si on aime les phrases un petit peu sévères, on les met pas, hein, le panais. On le mangeait un petit peu contraint et forcé. Et donc, dans un fabliau du XIIIe siècle de Gauthier Leleu, il y a un des personnages qui dit « Votre haleine n'est pas plaisante, elle est plus sale et plus puante qu'un pet de panais. Oh. »
Donc, rends-toi ça dans les dents.
Ouais, ça
prouve
plus,
qu'il
hein.
est gazogène. Voilà.
Et donc, voilà, le panais n'était pas super apprécié quand même. Mm-hmm. Moi, c'est un légume que j'aime beaucoup. Effectivement, il y a du sucre dedans, il y a un côté douceâtre, mais moi je l'aime vraiment bien. Le truc, c'est il est un petit peu long à cultiver pour nous, parce que théoriquement, si on veut avoir des vrais sujets comme celui-là, c'est semé au mois de mai. Alors après, il n'est pas exigeant, et puis on peut le laisser tout l'hiver en terre, lui. C'est vraiment un colosse, quoi.
C'est un colosse, il a un goût assez caractéristique là aussi. J'aime beaucoup, toujours dans le livre de Stéphanie Le Quellec, une recette qu'on peut baptiser les 3 P. P, P, P.
Panais, poire-poivre peut-être.
Panais, poire-poivre. Déjà,
on a eu vent de la chose.
Franchement, j'aurais dû l'appeler comme ça. Oui. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir pensé.
Vous m'appelez la prochaine fois.
Ouais. Mais on fera peut-être le prochain ensemble pour s'enregistrer.
Qui sait. Alors, panais, poire-poivre, ouais. C'est le principe d'une cocotte de panais.
Ouais, c'est le principe de rôtir, de concentration. Puis ça, c'est le principe d'une recette qui se débrouille toute seule. On épluche les panais, on les coupe en quatre. Alors celui-ci supporterait qu'on le coupe en peut-être un petit peu plus, Xavier.
En huit.
Mais voilà, on les coupe en quatre. On les met dans un plat à rôtir. On arrose huile d'olive, fleur de sel, un poivre. Mais un poivre, on va aller chercher du zarawak, on va aller chercher peut-être des poivres de cubeb, enfin des poivres un petit peu musclés et très aromatiques. On met ça, des quartiers de poire, saison, oui. parce que le légume colle à la saison du fruit, des petites pointes de romarin, et puis au four pour 40-45 minutes, et ça se débrouille tout seul. Et
la poire, on la met au démarrage ? Elle
ouais.
va pas complètement
non,
sur la
balle. Non, 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 non. Ah ouais. Des beaux quartiers
des
de
beaux
poire.
Quartiers un peu fermes.
Mais
hein,
voilà,
plutôt.
Parce que ce qu'on veut, c'est pareil, qu'elle compote un petit peu avec tout ça.
C'est superbe. Xavier, on finit malheureusement.
Ah bah très vite, j'aime beaucoup une recette où le panier se débrouille tout seul, parce que nous aussi, je débrouille tout seul au jardin. Voilà, faut voilà.
Et souvent, c'est ce qui ça. Se passe dans une casserole rejoint vachement ce qui s'est passé avant.
Merci Stéphanie Lequelec. Cuisine, c'est votre livre aux éditions Duchesne. Merci pour votre générosité d'être arrivée avec tous ces produits. La semaine prochaine, à quelques jours de Noël, nous dressons une table de fête dans le bistrot Tempero de la chef Alessandra Montagne. Alessandra nous prépare un menu festif et bon marché à base de produits agroécologiques. Esther El Payani et Dominique Hutin seront avec nous à dimanche prochain si vous avez encore faim.